France Culture. France Culture, Chrétien d'Orient, Ulysse Maness.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir la peintre et plasticienne Nino Capanadze. Vous êtes née à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, cette nation chrétienne du Caucase sur la mer Noire, entourée de la Russie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Turquie. Quand vous entendez le mot Géorgie, quelle est la première image qui vous traverse ?
C'est la Caucase et aussi l'horizon de la mer Noire.
Alors, Nino, j'ai récemment découvert à Paris la petite chapelle souterraine Sainte-Nino, fréquentée par la diaspora géorgienne, et j'ai assisté à un chœur de polyphonie byzantine bouleversant. Alors Nino, pour ne pas dire Sainte-Nino, est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs l'origine de votre prénom, Nino ?
Sainte-Nino, c'est une sainte de 4e siècle qui a évangélisé la Géorgie. En fait, selon la tradition orthodoxe, c'est Saint André qui est venu première en Géorgie, déjà en 1er siècle. Et ensuite, cette religion était affirmée comme religion officielle des royaumes de Géorgie par Saint Nino, qui venait de Cappadoce.
En Turquie, enfin en Anatolie.
En Anatolie. Et il appartenait au groupe de 35 vierges martyrs qui sont martyrisées en Arménie. Et donc, c'est elle la seule qui a survécu. Elle arrive en Géorgie avec sa croix de grappes, des vignes.
Dont nous reparlerons tout à l'heure.
Et elle a eu quelques miracles devant les rois. Et ensuite, elle a affirmé sa position de chrétienté en Géorgie. Elle est très vénérée. Sa croix est toujours gardée en capitale de Tbilissi, en Géorgie, cathédrale de Sion.
C'est ça. Et alors, est-ce que vous pensez que nos prénoms disent nos destins ?
Ça aide, peut-être.
Vous avez le nom d'une sainte, c'est déjà chargé.
Ça aide avec courage, parce que c'était une jeune fille qui a traversé 1000 kilomètres, qui arrivait avec juste l'esprit courageuse et avec petite croix, qui était noyée avec ses propres cheveux. En fait, donc c'est quelque chose de très symbolique, une jeune femme qui arrive à la Caucase pour parler de Christ, pour évangéliser tout le pays.
Oui,
c'est incroyable.
C'est aussi l'histoire d'une aventure. Et alors justement, pour faire le portrait d'une peintre, d'abord c'est toujours compliqué de faire le portrait d'une peintre pour un homme de radio comme moi. Et le plus difficile encore, Nino, c'est que quand on se penche sur votre curriculum vitae, c'est vertigineux. Vous êtes diplômé des Beaux-Arts de Tbilissi, vous avez validé un master d'architecture en 2015, puis vous avez déménagé à Paris pour suivre une formation à Sciences Po Urbaine, dont vous avez été diplômé en 2020, la même année où vous avez été reçu aux Beaux-Arts de Paris. Enfin, vous avez été naturalisé en 2024. Mais, il y a beaucoup plus. Vous avez en plus suivi des cours au Bauhaus Dessau, en Allemagne, et à l'université Alvar Aalto, en Finlande. Vous avez travaillé avec l'UNESCO. Vous ne vous arrêtez jamais et vous êtes une authentique artiste européenne. Alors, est-ce que vous vous sentez plus façonnée par les diplômes que vous avez obtenus ou par les villes que vous avez traversées ?
Je pense que tous ces diplômes, c'était juste pour accompagner ma vie, en fait, et mes intérêts de recherche et de mes visions pour découvrir la vie et chercher la vérité. C'était juste les instruments, mais c'était jamais le but. Mon but, c'est de servir à la peinture de toute ma force et de toute mon inspiration.
Quand nous nous sommes rencontrés, Nino, il y a 2 ans, c'était à l'origine autour du festival Le Week-end à l'Est en Géorgie. Puis, quand on a commencé à préparer cette émission, vous m'avez dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Votre éducation artistique ne s'est pas faite dans les musées, mais dans les monastères.
Oui, en fait, en Géorgie, j'ai eu, dans ma famille, j'ai eu les études classiques de l'art de très très jeune âge, mais ma première sensibilité artistique, donc ma première touche avec l'art vivant, c'était pas dans le musée. Bien sûr qu'on a le musée en Géorgie. Et j'ai visité beaucoup, mais ce premier sens de beauté vraiment et cohabitation avec cet entourage se produisait pendant le pèlerinage avec ma grand-mère.
C'est ça, votre grand-mère mathématicienne?
Elle était mathématicienne, mais aussi très croyante, donc je l'accompagnais. On allait très souvent dans les anciens monastères et de l'église et des cathédrales, partout dans la Géorgie, où la splendeur trouve, entre 10e et 13e siècle, des fresques.
Oui.
Et c'est ce qui est intéressant, que cette présence de ces merveilles, de cette mélange de l'art byzantin et purement géorgien aussi, de vernaculaire, mais à la fois très universel, avec conditions parfois, vous voyez, déchirées, pas toujours gardées, pas toujours restaurées. Donc, ce mélange avec le temps qui passe, les choses déchirées, les choses extrêmement beaux ou les choses envahies par la nature. Et moi, pendant les liturgies, parfois, vous voyez, j'étais tout jeune. Je m'ennuyais parfois, je pouvais pas toujours suivre les prières. Donc, je contemplais ces images qui était vraiment abstrait, ces figurations strictes au début créées.
Hiératiques.
Complètement, qui devenaient abstraits avec les couleurs effacées, avec les plusieurs niveaux de murs, parfois gravés, parfois avec poussière aussi. Donc ça crée les images vraiment fantastiques dans ma tête.
Est-ce qu'il y a un lieu précis, une église, un monastère qui vous a marqué plus que les autres ?
Cathédrale Sveti Trovelli, c'est un des plus grands exemples, mais également des Sapara, monastère Sapara. Vardia, il y a aussi des caves magnifiques. Ensuite, Timothée Subani et Rindvisi. Rindvisi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour moi. Surtout, il y a un jeu de résurrection très connu, qui est réalisé avec pigment lapis lazuli, oui, de bleu. Vraiment inoubliable, je pourrais dire.
Est-ce que vous pensez que c'est cette influence du sacré qui explique dans vos toiles aujourd'hui cette lumière très transparente, presque huilée ?
Oui, j'étais toujours très sensible à la transparence de couches. C'est quelque chose que j'explore beaucoup. Et quand j'ai arrivé à la formation de fresques, finalement, que j'ai réalisé, c'était ont des qualités non négociables, je peux dire, qu'on doit avoir pour réaliser la fresque à la tradition à fresco italien, où on doit voir à travers, donc rien cacher. Dans la peinture à huile traditionnelle, on peut toujours se faire superposition des couches, mais à la fresque, même si on superpose, on voit toujours à travers. C'est la même chose avec technique byzantine de tempera, on peut vraiment rien cacher. Donc on a cette mobilisation extrême dans la réalisation pour garder la beauté d'un peu sacré pendant tous les niveaux de développement de notre projet.
Et je voudrais qu'on reste encore un instant sur cette différence entre musée et monastère, parce que quand vous étiez enfant en Géorgie, l'art visible dans les musées, c'était encore en partie un art hérité du communisme soviétique ou de ce qu'on a appelé l'esthétique du réalisme socialiste. Donc à l'inverse, si j'ai bien compris, les monastères, c'était les réserves secrètes de la liberté esthétique.
Oui, tout à fait. Bien sûr que dans les musées, ils sont aussi très riches avec héritage archéologique, héritage les trouvailles des trésoreries, des travaux de or, des travaux des icônes qui sont gardés. Et finalement, c'est ce qui est un des plus beaux du 19e siècle, c'est Niko Pirosmani, peintre merveilleux. Mais aussi dans ce milieu musulman, c'est détaché de l'habitat naturel. Mais c'est ce qui était gardé avec la profondeur, ce qui était gardé avec l'excès, c'était toujours les églises, les monastères. Parce que vous voyez, nos rois, on a beaucoup d'héritage, des fortifications. Mais on n'a pas de palais, par exemple, comme c'est en Europe. On n'a pas de palais. Nos rois étaient toujours dans la guerre. Donc tout, c'est ce qui était beau, qui était gardé dans les églises et les monastères anciens de Géorgie.
J'ai une question presque métaphysique ou de philosophie esthétique. L'art soviétique promettait l'avenir, l'homme nouveau, le progrès, et les monastères, eux, regardent l'éternité. C'est quoi le plus moderne pour vous entre le progrès et l'éternité ?
Je pense que ça va ensemble. Si on va positionner modernité dans le cadre d'éternité, modernité est aussi devenue partie d'éternel en ce moment. Moi, j'ai également beaucoup, beaucoup d'admiration, pas seulement pour la sacrée, mais de modernisme et de peintre moderniste. Et même architecture qui est tout à fait sublime, avec ces libérations d'excès, des libérations d'ornements, avec son retrouvaille d'essentiel, qui est également très présent dans l'art sacré et dans l'art byzantin. C'est les essentiels, il n'y a rien d'excès. Même avec toutes ces décorations, on a vraiment les figures centrales et les couleurs très vivantes et la géométrie et même perspective inversée qui montre essentiel.
Cher Nino, en 2024, vous avez réalisé une fresque pour la ville de Grasse. Alors vous commencez par le paysage, vous peignez des arbres et d'un coup, vous découvrez une croix cachée.
En fait, vous voyez, j'essaie de... Je pense que mon art, quand je réalise, j'ai pas d'ambition que ça soit sacré. C'est pas pratique sacrée. En parallèle, je pratique d'iconographie. En apprentissage, c'est toujours un peu projet de vie, de suivre ça. C'est travail que je ne montre pas. Mais dans mon art, où je montre, j'ai pas d'ambition que ça soit sacré. Mais parfois, il y a les moments, les évidences, où les grâces se révèlent. En fait, ce sont les inconscients que je ne peux pas ignorer. Pour ce projet que j'ai réalisé en France, à Grasse, en fait, le projet était pour faire un paysage qui est réaliste dans son composition. C'est de deux arbres qui se croisent dans l'espace qui forme un X.
C'est ça.
Voilà, c'est ça. Et donc, toute longue de préparation de ce projet qui durait à peu près 6 mois, j'ai jamais pensé
À
ce motif-là.
Qui est le motif christique par excellence, quoi.
Exactement. Ouais. J'ai vraiment été fidèle à un paysage qui m'a inspiré cette composition. Ensuite, c'est une image qui a la limite d'abstraction et figuration. Et j'étais complètement concentrée sur réalisation de ce projet qui est très laborieux, assez complexe. Ouais. On a au tout près, moi je devrais partir pour réaliser ce projet à mi-mai. Et c'était en fait 12 mai, qui est les jours fériés en Géorgie, où ma mère, pour me dire bon fête, elle m'envoie image d'une icône depuis Géorgie. C'est en fait de Saint-André, en fait.
Ah oui, c'est ça, Saint-André qui est lié au symbole de la croix par excellence.
Oui, et du coup, c'était juste avant de partir, et moi... J'ai cherché un peu de courage, donc avant de partir, avant de faire ce projet ici tout, et je regarde cette image, je réalise qu'en fait, les deux arbres que je suis en train de commencer à peindre et réaliser, ça peut aussi très bien être
Croix Saint-André.
Et pendant toute réalisation, vraiment, j'ai m'accroché à ça. Moi, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais raconté, c'est pas dans mon texte de ce projet, mais c'était quelque chose à l'intérieur de moi, que je m'accrochais et ça révélait un petit grâce.
Et ça vous arrive souvent d'avoir des apparitions magiques en plein travail, totalement imprévues ?
J'ai deux autres projets où ces évidences se révèlent. Après, j'ai pas envie de te concentrer à ça parce que dans l'art contemporain, moi j'aime beaucoup aussi de cette virilité, si vous voyez, cette ambition, cet travail d'ego ou de conscience de l'art contemporain qui est peut-être aussi un jeu d'absurde parfois. Mais j'ai deux autres exemples où je ne pouvais pas nier l'évidence de présence, quelque chose être que mon intention. J'ai réalisé dans le cadre de résidence artistique à Villa Atrata, qui commune de Vienne en France, un très bel village de Hang-sur-Anglan. Je devrais réaliser projet in situ dans une chapelle des Saint-Croix.
Ah oui.
Qui était à moitié détruit, moitié gardé. C'est très authentique cet endroit. Donc je savais a priori. Donc ils ont aussi galerie à Paris, à Palais Royal. À Palais Royal, le projet était déjà confirmé. Je devrais réaliser un projet de cavalcade. C'est une série de courses de chevaux qui s'inspire de la Caucase, qui je travaille depuis 2021. Chaque année, j'ai une nouvelle variation de cavalcade. C'est ma fascination avec ces traditions dans le Caucase que j'ai eues depuis mon enfance, j'ai témoigné. Et ça, c'est composition d'horizons avec les paysages et où j'explore la calligraphie géorgienne. Et en fait, donc je devrais faire ça à Paris. Et pour réaliser le projet à Chapelle des Saint-Croix, j'ai eu soudain l'idée de réaliser des compositions verticales de la chute des cascades. Donc finalement, ces deux projets qui sont s'écroisés dans l'espace, d'axe vertical, axe horizontal, et chapelle qui était aussi dédiée à Saint-Croix, avec signification des sacres, des cascades, dans l'histoire de l'imagination de l'humanité, oui. En fait. Voilà, donc c'est le deuxième croisement qui se produit dans ce projet.
Vous avez dit tout à l'heure quelque chose que j'ai envie de revenir dessus un instant. Vous avez dit que vous pratiquiez l'iconographie canonique, mais uniquement à titre privé,
oui.
Comme une sorte de hobby.
Oui, c'est ça.
Mais vous avez dit aussi que c'est une sorte de service.
Oui.
C'est un service à l'Église.
Oui, c'est ça. C'est un service. Après, on a un très bel exemple où les peintres sont inspirés de l'iconographie byzantine. Klimt est magnifique.
Bien sûr.
Mais c'est complètement formel. Moi, comme croyante, je réalise ces icônes comme service, comme dédication de quelque chose où je cherche pas de rayonner mon homme, mais c'est quelque chose pour moi, pour service, où j'efface toute identité, où je suis complètement au service de cette beauté, de faire meilleur de mon âme et de mon esprit.
Nous avons parlé du motif de la croix, et je crois qu'il y a un lien entre la croix et la vigne.
Oui, parce que San Nino, elle a fait cette croix avec l'arbre de vigne.
Et alors, ouais. ce travail, ce lien entre la croix et la vigne, est-ce que ça ne nous amène pas à un poème ou à une chanson ?
Il y a un très bon poème, précisément de cette époque de fresques magnifiques qu'on parlait, des saintes rois géorgiennes, Demetra Pirouali, donc Demetrios Ier, ouais. Qui s'est confié au monastère David Karagi, où il a écrit les très beaux Iambe, donc les tout petits poèmes, structure de grec antique,
oui.
Qui est dédicat à sa mère de Dieu.
Alors là, vous allez nous faire le plaisir et l'honneur de nous lire quelques vers en géorgien, c'est ça?
Oui, et c'est ce qui est spécial dans pour ce poème, c'est que ça ne mentionne pas mère Dieu, il parle avec tout, toi qui es. Et donc ça montre la proximité de son esprit, ce moment-là, pendant ses confinements à Mère de Dieu. Donc je vais lire ce poème.
On vous écoute.
Şenher venahi ahlada qavebuli, morçik etili edem şinan erguli, avasuneli samotresa mosruli, xmertman şegam kuveravin gjobskebuli, da tavi tuisit msehar kavrtsqinebuli. Donc ça commence avec signification que toi, tu es un vignoble nouvellement fleuri, l'esprit de paradis, et ça continue de rendre grâce. Et à la fin, et toi-même, tu es un soie soleil. Donc c'est ça.
Et encore, nos auditeurs ne peuvent pas voir ce que vous avez sous les yeux. C'est un carnet manuscrit avec des lettres géorgiennes. C'est magnifique. On a l'impression que vous tenez un papyrus. Vous travaillez souvent avec des carnets.
J'aime beaucoup écrire à la main. Je fais les notes en géorgien, comme c'est langue de ma première pensée, naturellement, oui.
Alors nous allons nous quitter, c'est passé très vite, nous allons nous quitter sur la suite de la chanson « Tu es un vignoble », c'est bien ça le titre ?
Oui, c'est ça.
« Şenher venahi »
C'est très beau.
Ah, attends, je me suis beaucoup entraîné. Écrite par le roi et moine Demetrius Ier au XIe siècle, rien de moins. Une chanson, comme vous l'avez dit, dédiée à la mère de Dieu. Je vous remercie chaleureusement, cher Nino.
Merci à vous, c'était mon honneur, merci.
Et c'est un plaisir que vous soyez venu vous confier et non vous confesser au micro de Chrétien d'Orient. J'espère que nos auditeurs porteront un regard attentif sur votre travail passionnant, déjà très riche et très prometteur. C'était Chrétien d'Orient, une émission d'Ulysse Manès, réalisée par François Connac, coordonnée par Claire Poinsignon, à la technique aujourd'hui Delphine Baudet. À très bientôt et bon dimanche.